Yardarem, la terre et la mer.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Septième émission de notre série de rendez-vous au sein des rencontres internationales qui se déroulent à Nantes, dans l'Aveyron, en ce mois de juillet 2011. Je vous rappelle, comme tous les jours, que de nombreuses radios associatives diffusent dans leur réseau ces rendez-vous radiophoniques. Radio Larzac, Radio Pays d'Hérault, Fréquence Paris Pluriel, toutes trois présentes ici à Nantes, mais également
Radio Transparence à Foix, Grésivaudan à Chambéry, Radio Divergence à Montpellier, Écho des Garrigues aussi à Montpellier, Radio Albigès à Albi et Radio Fil de l'Eau dans le Gers.
Alors, nous arrivons un peu au terme de ces rencontres internationales et c'est le moment de faire un premier bilan. Le thème, je vous le rappelle, était l'accaparement des terres agricoles, des ressources naturelles et la destruction des territoires. Nous avons évoqué durant cette série d'émissions toutes les problématiques liées à ces débats à travers des tables rondes que j'espère vous avez écoutées avec des invités prestigieux du monde entier. Ces accaparements et ces destructions de territoires ne se justifient que pour perpétuer un type de développement qui détruit la planète et met en danger l'humanité. Et nous sommes bien là, au cœur des problématiques de ces rencontres internationales. C'est donc l'heure de commencer à faire un premier bilan, je vous l'ai dit, avec les organisateurs. Je vous présente donc d'abord nos invités, organisateurs de ces rencontres. Pierre Vuarin, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Association internationale des terres citoyennes. Mathieu Perdriot, bonjour.
Bonjour.
De l'Association pour l'amélioration de la gouvernance de la terre et de l'eau et des ressources naturelles, ACTER, dit ACTER, c'est ça. Josie Riffaut, bonjour.
Bonjour.
De la Confédération paysanne. Et nous attendons Jean Ruffio qui va nous rejoindre.
Jean Bourliot,
qui va nous rejoindre de l'Association des populations des montagnes du monde. Une émission animée aujourd'hui par Catherine de Radio Larzac,
Robert Martin, Radio Pays d'Hérault,
et Joël de Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour à toutes et à tous.
Bien, alors Pierre Vuarin, on pourrait un petit peu peut-être, avant de faire le bilan, rappeler quels étaient les objectifs, au fond, de ces rencontres, et on verra durant toute l'émission s'ils ont bien été atteints, et les actions et les propositions que vous allez peut-être nous faire, et vos invités, et nos invités.
Nous avions fait un constat déjà depuis quelque temps de l'importance de ces questions d'accaparement des terres agricoles, mais aussi spoliation des communautés rurales et maritimes en matière d'accès de gestion des ressources naturelles par des grands barrages, par des constructions de mines et d'infrastructures importantes. Et donc, on s'était dit qu'il fallait vraiment réunir des acteurs qui vivent, qui sont affectés par ces situations au niveau international. Bon. Et en réunissant des gens du secteur de l'agriculture, mais aussi des gens du secteur de la pêche, et aussi des habitants, en particulier des zones de montagne, avec des ONG, des universitaires, quelques chercheurs, des gens d'ONG. Donc, de mixer un peu ces personnes affectées, ces populations affectées, et de voir un peu, faire les constats, les analyses un peu de ce qui se passait, et de voir aussi quel type de stratégie, de résistance, de proposition on pouvait mettre en œuvre.
D'accord. Voilà, Jean Bourliot vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Donc, je répète, de l'Association des populations des montagnes du monde. Alors, un premier bilan qu'on pourrait faire, est-ce que vous êtes satisfait du bilan humain? Est-ce que ces quelques jours passés ici à Nantes ensemble ont permis, au fond, d'abord sur le plan humain et relationnel, de tisser un petit peu ce qui était un des objectifs, c'est de se faire parler des gens ensemble de problèmes qui ont l'air finalement éloignés les uns des autres, mais qui, au fond, peut-être, on va le voir au bilan de cette semaine, se rejoignent tous. Josie Riffaut.
Oui, pour nous, c'est vraiment très important. Je parle, nous, via Campesina, je fais partie du mouvement Paysans International, je suis déléguée européenne. Et c'est toujours à la fois intéressant, enrichissant, mais aussi obligatoire de créer des alliances. Ça fait vraiment partie de notre plan stratégique d'arriver à créer des alliances pour pouvoir arriver à nos fins, c'est-à-dire mettre en œuvre la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire sauver l'agriculture paysanne et agroécologique. Et donc ici, on a les acteurs qui vont bien, effectivement. Ça renforce. Ça redonne le dynamisme dont on a besoin, parce que militer, c'est dur tous les jours, hein, parce qu'on est face vraiment à des montagnes qui n'en finissent plus de grandir, et on se sent souvent tout petit. On se dit, ils sont forts, mais on est nombreux. Et quand on se retrouve comme ça, on se dit, on est très nombreux et très déterminés. Donc oui, ça donne la pêche.
Pour avoir discuté avec différents participants internationaux qui sont ici, effectivement, c'est très important pour des gens qui militent dans leur campagne, dans leur montagne, au nom de certaines communautés, de voir qu'ailleurs, il y a aussi d'autres personnes qui luttent, parfois aussi victorieusement, etc.
Pierre Vuaret. Oui, Pierre Vuaret. Ce qu'il y a, c'est qu'on a fait un choix. Un choix qui n'est pas facile à faire en général au niveau de rencontres internationales. C'est le choix de prendre du temps et de créer des conditions, d'essayer de créer les conditions d'un dialogue, d'une rencontre entre les personnes, avec des personnes qui parlent des langues différentes, qui ont des cultures différentes. Et donc on a pris du temps. On a visité sur le terrain le Larzac. On a pris du temps pour des échanges, pour voir un peu comment on réagissait vis-à-vis de ces réalités. On a pris du temps d'aller rencontrer les gens du Larzac aussi à travers des projections de films qui sont faits comme hier soir sur le Larzac. Ça, c'est un point très important parce que souvent, on fait des réunions pour créer du dialogue. Mais en fait, on dit qu'on fait du dialogue. Mais réunir des personnes qui viennent de l'autre côté de la planète pour deux jours... 3 jours, c'est très difficile, c'est très fatigant. Et en jour, il y a souvent beaucoup de frustration parce que les gens commencent à se toucher, à se rencontrer, à entendre quelques mots dans une autre langue qui font écho à leur réalité. Et c'est souvent difficile. Alors que là, je pense qu'on a réussi, grâce à une variété d'activités, etc., à créer une véritable rencontre entre les personnes. Et ça, c'est jamais perdu. Je veux dire, ça reste dans le cœur des gens, ça reste dans leur esprit, et ça crée des éléments de confiance qui sont très, très importants, je dirais, pour l'avenir. Au niveau international, on a besoin d'éléments de confiance, de savoir que l'autre côté de la planète, il y a quelqu'un qui vit la même chose et qu'on peut peut-être aller le chercher ou qu'on peut faire appel à lui.
C'est ça, le véritable internationalisme, peut-être, Jean Bourlio?
Eh bien, le mot, on le connaît depuis longtemps. Je crois que celui qu'on pratique n'est pas tout à fait celui auquel que l'on entend couramment, c'est-à-dire celui véritablement structuré par des institutions fortes, les syndicats, les partis. Bien sûr, il y a aussi l'autre dimension, celle de la planète. Et je crois que là, dans ce séjour, nous avons ressenti, dans le sens où en parle Pierre, une progression, c'est-à-dire au début, effectivement, on est présent, on est ensemble, on sait qu'on est là en partageant beaucoup de choses, mais quand même, on ne se connaît pas vraiment. On a beaucoup de difficultés à comprendre la situation de l'autre parce qu'elle est à la fois, bien sûr, générale, mais aussi avec des caractéristiques locales très particulières. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a deux dimensions sur lesquelles l'internationalisme dont tu parles s'est manifesté pour nous. C'est celui de l'échange avec les gens du Larzac qui, par rapport à d'autres séminaires peut-être, nous ont paru plus porteurs et plus dans une sorte de progression. C'est-à-dire l'intérêt, par exemple, pour la société civile des terres du Larzac a été très grand. Mais comment comprendre la société civile des terres du Larzac quand on vient d'une communauté indigène des Andes? Quand on vient d'une communauté de pêcheurs de Mauritanie, ça n'a rien d'évident et rien d'immédiat. Par contre, petit à petit, à force de décortiquer puis d'en faire un sujet qui se rapporte à l'accaparement, les gens ont perçu cette dimension-là dans ce qui est spécifique ici et ailleurs. Mmh. Et la dimension peut-être qui a été la plus évidemment qui nous a permis de cette façon très concrète de passer par-dessus les frontières de chacun et puis aussi nord-sud, c'est vraiment le gaz de schiste. Et le gaz de schiste, c'est un sujet qui n'est pas seulement celui du Larzac, il est celui d'un immense partie du territoire de la France. On nous a expliqué à quel point, enfin nous savons tous, les Français, à quel point les gens ont été choqués par la façon dont le gaz de schiste s'est introduit sur notre territoire. Là, il y a une dimension absolument commune avec toutes les populations du monde, qui est celle de l'implantation des grands projets, les mines, les barrages, etc. Les projets arrivent. On ne pensait pas que c'était possible en France. Et là, les gens sont stupéfaits, mais absolument sur la même longueur d'onde, alors qu'ils s'ignoraient complètement.
Catherine de Radio Larzac.
Alors, au départ de ces rencontres, vous aviez un objectif très précis et annoncé, du moins en interne, d'organiser une université internationale terre citoyenne. Qu'est-ce que ça a donné? Vous avez eu 2 jours de réflexion sur ce sujet. Et qu'est-ce qu'ont donné ces discussions? Quel type d'université vous pensez qui va pouvoir sortir de ces débats?
Oui.
Pierre Vioré.
Oui, c'est un projet que l'on travaille déjà depuis plusieurs années, parce que c'est très ambitieux. Nous avons avancé, validé un certain nombre de propositions qu'un comité promoteur avait élaborées. Cette université, c'est l'idée qu'au niveau international, on a besoin aussi d'instruments qui permettent de protéger, de développer des initiatives en matière de formation citoyenne et de formation de leaders sociaux. On a à l'heure actuelle effectivement des initiatives diverses au niveau local, mais qui ont du mal à exister. En Europe, l'éducation populaire est très en crise. Et donc, il nous semblait qu'il fallait avoir un instrument au niveau international pour valoriser aussi, la réflexion, les éléments de proposition, les éléments d'intelligence collective qui sont portés par la société civile organisée dans des ONG, dans des organisations sociales. Et c'est une façon de les mettre aussi en évidence un certain nombre de connaissances, mais aussi de permettre d'avoir des instruments, des moyens de former par différentes manières, en utilisant aussi les moyens d'Internet, etc., en electronic learning, c'est-à-dire la formation à distance, des responsables, des citoyens. Parce que pour faire face aux enjeux de transformation de la société monde à l'heure actuelle, c'est pas simplement avec la formation d'une élite formée dans quelques universités que l'on va réellement réaliser ces changements. Il y a besoin d'une participation de tous les citoyens, de toutes les personnes qui habitent notre planète. Et donc c'est un peu cet enjeu. C'est une petite contribution par rapport à l'enjeu, mais elle est réelle et elle sera réelle.
Un mot de Mathieu Perdriau là, sur ces thèmes-là.
Ben oui, le point de vue d'une organisation comme celle d'ACTER, l'association pour l'amélioration de la gouvernance.
Oui, je rappelle que vous êtes membre d'ACTER. Hein,
oui.
Donc, je vais donner la définition tout à l'heure.
Oui, tout à fait. J'allais la répéter.
Mais... je vous en prie.
Non, mais peu importe. Je voulais dire que du point de vue d'une association comme la nôtre, qui travaillons à essayer de caractériser les déterminants politiques et juridiques qui rendent possible des phénomènes tels que celui de l'accaparement des terres, c'est-à-dire à mieux comprendre les manquements des cadres juridiques, des cadres politiques, économiques, qui donnent lieu, laissent place à des rapports de force absolument considérables entre des entités économiques, des entités politiques aussi, et des utilisateurs des ressources à petite échelle. Ce travail-là nous conduit évidemment à inventer ou à penser en négatif les cadres qui seraient souhaitables pour qu'il en soit autrement, mais on est évidemment parfaitement conscient que les changements nécessaires pour voir ces cadres évoluer, tendre vers ce qui serait souhaitable pour tous, ben ces changements-là ne pourront jamais advenir hors d'une aspiration citoyenne forte, d'une volonté politique citoyenne très, très forte et partagée par-delà les frontières. Et le sens d'une démarche comme celle de la construction d'une université terre citoyenne participe évidemment de cette analyse du changement et de la nécessité de rapprocher les citoyens dans leur analyse, dans leur proposition et à favoriser ainsi l'émergence d'alternatives et que les décideurs actuels ou les détenteurs du pouvoir aujourd'hui, ceux qui dominent d'autres jusqu'à les pousser dans les limites des conditions d'existence, ces gens-là finissent par identifier comme incontournable la voix qui s'élève contre eux, quoi, face à eux. En ce sens, il y a un exemple évidemment très encourageant pour nous dans cette démarche-là à laquelle on contribue, c'est ce qu'on observe dans le Maghreb et les Machrek. Ce sont des ordres établis, jugés jusqu'à maintenant totalement immuables et qui ont bougé. Évidemment, on peut renvoyer qu'on ne sait pas du tout vers quoi on va, mais quand on change, on va vers du nouveau, on invente. Et c'est pour essayer d'aller vers une invention d'espace et de fonctionnement meilleur qu'on participe à cette grande démarche de l'université et puis à ces rencontres. Parce que c'est aussi ça, donc le but de ces rencontres-là, c'est de faire du lien avec le plus grand nombre de mouvements sociaux et de personnes concernées par ces sujets-là, et qui désirent que ça change.
Une question de Joël, de Fréquence Paris Plurielle.
Comment on fait, quand on parle d'alternative, en face d'un système capitaliste de plus en plus en place? On le voit actuellement en Europe, avec les institutions monétaires qui effectivement donnent le là. Comment, justement, on peut et on va pouvoir installer un petit peu cette alternative ou peut-être cette rupture, parce que c'est intéressant le mot rupture aussi à un moment.
José Griffos, une réponse?
Oui, une contribution.
Une tentative de réponse.
Une contribution. Je crois que le système nous montre qu'il dysfonctionne totalement. Donc effectivement, moi j'aurais préféré parler de rupture et de propositions d'invention, de dynamique de résistance, de compréhension que ce qui se passe n'a rien d'une destinée qui serait préétablie par je ne sais quel, dans de quel ordre, mais qui est bien la volonté de certains de continuer plus que jamais à dominer le monde. Et nous sommes quand même suffisamment nombreux pour, si nous nous fédérons, lutter contre ça et inventer cet autre monde possible que nous voulons de toutes nos forces depuis déjà plus de 10 ans. Mais ça a beaucoup avancé. On était pris pour des allumés et aujourd'hui, on comprend que on a des réponses, on peut faire des choses. Et c'est vrai que là, les témoignages de ce qui se passe par les copains du Maghreb, à Dakar, c'était fantastique, quoi, hein, au niveau de l'Assemblée des mouvements sociaux. Ça a été une bouffée d'oxygène et d'espoir. On est clair, on n'est pas innocent, hein, on sait bien que rien n'est acquis, mais l'histoire, elle s'écrit comme ça, c'est avec un grand H. Hein, ça a été des luttes permanentes, des résistances, et on gagne à petits coups, mais à coup sûr. Donc, moi, je me dis, on a éradiqué l'esclavage, il y a plein de choses qui ont évolué, on n'aurait jamais cru que c'était possible, et ça, ça l'a fait. Donc, aujourd'hui, les transnationales veulent être maîtres du monde, on ne va pas les laisser faire. On va lutter, on va se donner les moyens de leur dire non, stop, pas question, parce que l'accaparement des terres aujourd'hui, c'est qu'un morceau du grand puzzle dans lequel ils sont, de domination, de nouvelles formes de colonisation, d'imposer leur vision des choses. Bah, nous, on est là pour dire non. De secteurs complètement différents, de pays complètement différents, mais avec la même détermination, je pense que ça, c'est positif.
Bien, on a vu au cours de ces ateliers donc des situations géographiques et donc politiques extrêmement différentes, avec des moyens d'action, et on parlera tout à l'heure un petit peu des luttes possibles à mener, mais des moyens d'action et des capacités d'action totalement différentes. Je reviens sur ce que disait Mathieu Perdriau, en particulier sur les cadres juridiques. On s'est rendu compte que des pays n'ont absolument aucun cadre juridique sur lequel on pourrait attraper. Je pense à... Parce que ça m'a un petit peu... J'ai découvert des choses aussi pendant cette semaine. Donc l'information aussi, elle est passée au-delà des invités et du monde entier. C'est ces histoires de titres de propriété. Ce cadre juridique-là, où on se rend compte que dans de nombreux pays du monde, les gens n'ont pas la capacité de prouver qu'ils sont propriétaires de leurs terres, à part d'y être, d'y travailler et d'y être depuis plusieurs générations. Est-ce que ce cadre juridique vous paraît important? On en a pas mal discuté. Est-ce que cette histoire de titre de propriété qu'on peut opposer, au fond, aux États ou aux grandes entreprises qui veulent spolier, voire exproprier les habitants de ces territoires, est-ce que c'est un combat juridique à mener? Et est-ce que c'est un combat important ou pas? Jean Bourlion?
Je prends la parole. Mathieu serait certainement aussi très bien répondre à la question, mais ça, je reprends la parole parce que tel que vous l'avez formulé, c'est assez piégeant. C'est-à-dire que la reconnaissance des droits de propriété, il y a beaucoup d'institutions, les États et la Banque mondiale et les grandes institutions qui, au contraire, ne cessent de travailler que pour ça, pour créer des titres de propriété, mais pas ceux qui est celui voulu par les gens.
Pourquoi ? Je pense à cela.
Non, mais attendez, c'est que pour les politiques nationales et internationales sont extrêmement conséquentes de ce point de vue-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de créer des titres de propriété qui permettent de rendre la terre comme un bien aliénable, c'est-à-dire qui puisse se vendre et s'échanger, et qui entre dans un marché foncier qui permette la meilleure allocation des terres. Alors c'est avant ou au-delà de l'accaparement, mais voilà le fondement des politiques, d'octroi de propriété nationale, internationale. Or, ce ne sont pas celles que vivent les gens. Les gens, ils sont dans des systèmes fonciers plus compliqués de notre point de vue, de cette rationalité simple qui est celle du marché. Ils viennent de communautés dans lesquelles les droits sont ceux de leur société tels qu'ils se sont construits, et ce sont ceux-là qui ne sont pas reconnus. Donc avant de parler d'octroi du droit de la propriété, c'est d'abord la reconnaissance des formes de propriété et d'usage de la terre et des ressources qui est nécessaire.
D'ailleurs, dans le film hier soir « À ciel ouvert », ce qui était assez surprenant, c'est qu'on proposait à des peuples millénaires des titres privés, alors que c'est des gens qui ont toujours vécu là et on les fait rentrer dans ce système-là, alors que ces gens-là, ils sont... Voilà, c'est quand même assez étonnant, ça.
Oui, alors ce sont donc là, nous touchons à une dimension extrêmement importante, c'est celle d'abord cette reconnaissance des formes d'organisation individuelle et collective, avec la revendication et les luttes pour des droits individuels et collectifs dans les formes où les gens ont vécu et ont effectivement géré les ressources et la terre, d'une façon générale, on va dire en bien commun, puisque c'est un terme qui nous convient à tous, et pour lequel l'expérience dont vous parlez, qui est millénaire, montre qu'effectivement, ils ont pu amener les ressources dans l'état actuel où elles sont, et qui permettent maintenant une nouvelle forme de pillage par rapport à ces exploitations.
Effectivement, je crois que cette question du foncier a été développée à une conférence un soir. Je propose, pour approfondir le sujet aux auditeurs éventuellement, on va mettre en ligne la conférence qui a été enregistrée, donc qui a été proposée par Acter, dont Mathieu Perdriot et Michel Merlet, sur la question du foncier, puisque c'est très compliqué. Une histoire de droit foncier international par rapport aux us et coutumes, plus aux juridictions nationales, locales, etc. C'est quand même un problème assez complexe. On ne peut pas rentrer dans les détails maintenant. Et je vous propose de faire une pause avant de reprendre cette émission.
Muchas veces te sientes prisionero en una celda, en tu mente te sientes tan solo y sin salida. Es un sentimiento que te llena de amargura, la gente te asusta, pero la soledad te mata. Te lo digo, a veces la vida tiene un sabor amargo, buscando en ti mismo y no te encuentras, solo eres testigo. La luz del día juega contigo, vivir no es un castigo. Yo sé que solo vas a romper la condena.
Oh, esa condena que te mantiene en la oscuridad.
Rómpela, esa condena.
Rómpela, rómpela, rompe.
Rómpela, esa condena.
Que te rompe, que te rompe, que te rompe.
Rómpela, esa condena.
Toreala, torea.
Rómpela, esa condena.
Siempre al escondite, detrás de una careta. El día de noche se viste y te nubla la vista. El tigre en gato se convierte, el ratón en elefante. El que grita no es por suerte, el que más fuerte muerde. Esa cadena te condena, no hay manera, tienes que romperla. Las apariencias son mentales, solo son detalles. Hay cartas secretas en tu juego, eres tu propio enemigo. Yo sé que solo vas a romper la condena.
Esa condena que te mantiene en la oscuridad.
Rómpela, esa condena.
Rómpela, rómpela, rompe.
Rómpela, esa condena.
Que te rompe, que te rompe, que te rompe.
Rómpela, esa condena.
Toreala, torea.
Rómpela, esa condena. Rómpela tú, rómpela ya.
Gardarem, la terre et la mer, avec Sergent Garcia, Rompe la cadena. Toujours avec nos invités ici à Nantes pour ces rencontres internationales sur l'accaparement des terres. Nous avons fini un petit peu en parlant du foncier. On peut peut-être aborder, ou alors, à part que vous vouliez continuer là-dessus, mais sinon on pourrait aborder d'autres sujets. En particulier, ce qui m'a semblé intéressant, on a parlé tout à l'heure de l'humain, c'est la confrontation, voire l'échange des expériences, toujours dans ces pays. C'est ce qui m'a paru. Je vais vous donner un exemple, puis vous réagirez dessus si vous voulez. On a amené tous ces gens du monde entier, on les a amenés à Millau, à la mairie de Millau. On est allé dans une cantine. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'en France, on tentait de faire que les cantines scolaires puissent manger des produits de qualité, bio pourquoi pas, et produits localement. Et tout d'un coup, une des réflexions des participantes à ces rencontres internationales nous a dit, de façon abrupte, « Écoutez, nous, notre problème, c'est d'avoir à manger aujourd'hui. » Alors. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu choqué et qu'il y avait là un décalage clair, et c'est aussi l'objet de ces rencontres, entre des gens qui sont sur le terrain en Afrique ou en Amérique du Sud avec des problèmes très très particuliers qui sont quelquefois loin de nos problèmes ici en France ou en Occident. Pierre Vuarin ?
Les problèmes ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des problèmes de fond qui se retrouvent souvent partagés, qui sont un peu les mêmes. Mais ce qu'il y a, c'est que, justement, au niveau de la méthode de ces rencontres, c'est ce qui a été proposé, c'est de voir des expériences, rencontrer des gens. Mais surtout, on a pris du temps pour se remettre en petits groupes de 10-15 personnes, pour donner le temps de l'expression de chacun, en disant, mais qu'est-ce qui t'a marqué, toi ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Qu'est-ce qui t'a vraiment surpris dans ce que tu as vu. Et donc, on prend ce temps, on a pris ce temps à chaque fois, chaque matinée, chaque après-midi, pour partager nos émotions. On parle de rapport d'étonnement. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a Kolyang Palebele, qui est un paysan, responsable national de l'organisation du Tchad, qui, après visite des jardins familiaux, des jardins d'insertion, disait mais, ici, ils peuvent tout faire. Hein. Ils peuvent faire des jardins, etc. Ils n'ont pas de problème d'animaux divagants. Mais c'était ça qui le marquait. C'était ce point-là qui était... C'est-à-dire qu'on pouvait faire des jardins sans problème, il n'y a pas des chèvres qui vont les manger, on n'est pas obligé d'être là toute la journée à protéger son jardin. Bon, il y avait Aminata du Sénégal, la chose qui l'avait marqué, le plus marqué, c'est de dire... C'est incroyable, cette route dans la montagne, mais comment ils l'ont construite ? Parce qu'elle elle ne vit pas dans une zone de montagne. Donc, je veux dire, les gens sont marqués par des choses très, très, très variées et différentes. La réalité n'existe pas. On croit que bah, cette réalité, elle est bien, elle est comme ça, on fait des avancées du point de vue de la restauration, etc. Non, les gens voient des choses différentes. La réalité, elle se construit à partir de l'expérience de chacun. Donc après, ce qu'il y a d'intéressant dans ces processus-là, c'est de mettre sur la table les regards différents sur une même réalité et de s'apercevoir qu'effectivement, elle est plus complexe, cette réalité. Ça complexifie le regard. Et ça, c'est une chose très intéressante pour construire après une meilleure compréhension de l'autre, de voir qu'il a d'autres questions qui se posent et de pouvoir créer après des éléments de confiance et d'imaginaire commun et de possibles actions communes.
Je crois qu'au fil de ces journées, après, c'est avec... À partir de ces échanges, d'une part informels, mais aussi des ateliers plus, peut-être plus construits, etc., vous avez dégagé des stratégies, parce que malgré tout, malgré les différences qui sont soulignées, il y a des constats communs, des stratégies communes à mettre en place. Bon, par exemple, sur l'exemple que donnait Robert, moi j'ai cru entendre qu'il avait été question d'une convention alimentaire internationale, donc j'imagine qu'il regroupe un petit peu tous ces côtés-là. Mais beaucoup d'autres projets, vous avez beaucoup de projets, ce serait intéressant qu'on en parle là dans cette émission. Enfin, des projets, certains peut-être verront le jour, certains sont très avancés, d'autres un petit peu moins, etc. Et il y a un point fort qui paraissait aussi important, qui était beaucoup souligné ce matin, surtout je dirais peut-être plus par les intervenants qui représentent des communautés, qui travaillent moins au sein d'ONG, qui sont plus extérieurs, on va dire, aux problématiques, c'était le lien avec les luttes. Mais de toute façon, les ONG ne pourraient pas non plus travailler sur ces questions-là s'il n'y avait pas sur le terrain des luttes qui font qu'après, on essaye de théoriser ça et de leur donner des outils. C'est un petit peu l'articulation entre les deux structures, ONG et mouvements de lutte, je ne sais pas.
Josie Riffo.
Oui, évidemment que c'est super important pour nous qu'il y ait cette concordance entre tous les niveaux de lutte. On a quand même régulièrement tendance à dire tous les niveaux sont importants, ils sont complémentaires. Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre, l'un n'existerait pas sans l'autre. Donc il n'y a pas de gradation à faire entre les différents niveaux, mais évidemment que si les populations locales ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi il est important de lutter, eh bien, on n'avancera pas, c'est clair. Mais en même temps, s'il n'y a pas un appui, s'il n'y a pas une réflexion globale sur ce qui se passe, comment ça peut s'intégrer dans un contexte global, ça boiterait. Hein. Mais le plus dur aujourd'hui, c'est notamment par rapport à l'accaparement des terres, faire comprendre qu'est-ce qui se passe exactement, où ils veulent en venir. Que ce n'est pas pour le bienfait des communautés locales, il n'y aura aucun apport. Parce qu'ils arrivent avec une communication quand même très bien armée, où ils expliquent comment ce sera bien, les investisseurs qui arrivent, ils vont apporter que du bonus pour les locaux, qui auront du travail, ils leur vantent tout le projet. Donc si les populations locales ne comprennent pas que, au contraire, elles vont être complètement dépossédées de leur outil de production, qu'elles vont être affamées par ce système-là et réduites on parle de déguerpissement, hein, c'est un mot qui me plaît bien, être déguerpi, c'est-à-dire éjecter des lieux pour aller grossir les bidonvilles. Voilà ce qui les attend. Mais pour comprendre que c'est ça qui attend les populations, ben, il faut quand même de la pédagogie, de la conscientisation, c'est un gros travail, et il n'y a que les luttes locales, effectivement, qui arriveront à faire exploser la machine, mais en complémentarité avec les différents niveaux.
Alors, tout commence effectivement par la lutte locale. Comment ce type de rencontre peut permettre de faire se converger les luttes, ou voir, comme l'avait demandé hier, je crois, un représentant marocain, de dire ces luttes-là sont aussi les nôtres, et comment on peut, nous, internationalement, j'allais dire, aider à ce que ces luttes deviennent victorieuses. Jean Bourliaud ?
Oui, je vais vous donner un exemple qui est né spontanément de la rencontre des gens, ici. Vous avez vu, évidemment, Roger Moreau et la personne qui a fait le film que nous avons vu hier soir.
Inès Compan, oui.
Inès Compan, qui était consacrée à ces mines d'argent qui sont arrivées parachutées sur l'Altiplano de l'Argentine. Dans cette région, il n'y a pas que les mines d'argent, il y a aussi les mines d'uranium, qui ont été, je crois, arrêtées par la lutte déjà, en tout cas qui ne sont pas encore en place, et puis les mines de lithium. Et le lithium, vous savez, c'est un grand chapitre, on en a entendu parler, on sait que c'est l'avenir de la voiture électrique, et les réserves sont toutes concentrées dans ces régions de salar, c'est-à-dire la Bolivie, l'Argentine, le Chili. Et là, nous avions des gens qui étaient effectivement engagés dans des luttes en Argentine, Bolivie et Chili. Et nous avons trois pays complètement différents du point de vue de la politique vis-à-vis des mines. L'Argentine, on l'a vu. La Bolivie, vous le savez, a franchi un pas en exerçant un meilleur contrôle de ses ressources et aussi de ses mines. Il n'empêche que les problèmes existent. Et le Chili aussi. Et la question est venue à la fois de Roger Moreau qui dit « Mais sur les mines de lithium, nous ne savons rien ». C'est comme la situation pour le gage de schiste avant que vous ne commenciez à comprendre de quelle technique il s'agissait, quelles seraient les conséquences sur le milieu, évidemment en particulier l'eau, sachant que dans ces déserts d'altitude, il y a aussi peu d'eau, voire moins d'eau que sur le Larzac. Donc les uns et les autres ont convenu que la priorité pour eux, sur ces trois terrains différents, Chili, Argentine et Bolivie, ils allaient se retrouver pour avancer sur cette question sur laquelle ils n'ont pas de réponse. Quelles sont les techniques? Quelles sont les conséquences? Et chacun dans un contexte politique différent. La Bolivie, les peuples indigènes disent « Nous sommes passés de la résistance, avant le régime actuel, à celui de la gestion des ressources. Mais nous ne savons pas quelles sont les conséquences de nos mines. Donc il faut que nous avancions là-dessus, sur le plan technique, sur le plan des conséquences ambientales. Le cap politique, nous le connaissons, nous le tenons. Nous allons continuer. Et le Chili aussi, avec son régime le plus libéral ou néolibéral qui soit. Donc tous ces gens-là ont le même objectif et vont se retrouver sur cet objectif commun.
Alors là, c'est sûr que c'est d'un point commun dans tous les témoignages que nous avons entendus tout le long de la semaine, c'est au fond le problème de l'information et que les pays soient démocratiques ou non, un déni total de démocratie. Parce que les témoignages que nous avons entendus, c'était que dans tel ou tel pays, effectivement, l'information n'existe pas, mais même dans des pays démocratiques comme le nôtre, et à propos des gaz de schiste, le déni de démocratie existe. Là, j'allais presque dire que sur ces problèmes de spoliation, de ressources naturelles, d'accaparement des terres, et on se moque totalement des populations, et que ce soit dans les pays démocratiques ou moins démocratiques. Mathieu Perdriot ?
Oui, je crois que vous avez lâché le mot, c'est-à-dire démocratie. Tout l'enjeu autour de ces questions de ressources naturelles, c'est celui de regagner une emprise pour les utilisateurs de ces ressources, les populations concernées, de retrouver une emprise sur les choix, les décisions collectives qui les engagent, qui engagent le devenir de leur communauté, le devenir aussi commun à une échelle plus large. Et qui aujourd'hui, c'est cette décision est totalement privatisée et guidée par des intérêts privatifs. Quand on parle d'appropriation, pour nous, ce mot est synonyme d'accaparement. Il caractérise un phénomène, une forme particulière d'accaparement, mais il prend ce sens-là, c'est-à-dire qu'il s'agit de voir des ressources communes, des biens communs, exploités et les bénéfices qui en sont tirés, monopolisés par des individus ou des groupes, aux dépens du collectif et de la communauté. Ça, C'est donc, de notre point de vue, évidemment, tout l'enjeu que de regagner cette décision-là. Et je reviens à la question qui était posée quant aux pistes de lutte, d'action. Il semble quand même qu'il soit absolument nécessaire aujourd'hui pour les ONG s'interroger sur les besoins immédiats des personnes qui ont à faire face à l'accapareur, qu'il s'agisse de l'élite locale, de la multinationale qui se présente directement ou au travers d'entités locales. Il faut trouver les moyens de venir apporter quelques soutiens à ces luttes. Et ça peut évidemment passer par l'analyse et la connaissance, par exemple, des outils juridiques, des leviers qui existeraient déjà au plan local ou national. Et ça peut être aussi créer des occasions d'échange de pratiques de lutte juridique ou sociale avec d'autres mouvements ailleurs, dans une logique d'enrichissement mutuel qui est celle dont parlait Pierre Vurin tout à l'heure et qui est absolument essentielle dans ces questions. Quoi.
Josy Riffaut.
Il y a des choses qui me paraissent vraiment importantes aujourd'hui, c'est les mobilisations citoyennes, les campagnes contre les transnationales. La semaine dernière, j'étais à Notre-Dame-des-Landes. On a fait une magnifique fresque humaine avec 26 dégages. C'est important. Il y avait 5000 personnes présentes là pour dire 26 ne fera pas la loi. Je suis présidente de Combat Monsanto. On se bat pour justement informer les populations de ce qui se passe avec les OGM, comment on nous les impose. J'ai participé aussi à la campagne contre Agresco, cette importation de produits issus de terres palestiniennes occupées. Je veux dire, mettre le doigt, la lumière sur tout ce qui se passe, sur la façon dont ils veulent mener leurs affaires sans prendre en compte notre point de vue, c'est complètement antidémocratique. Et c'est, je pense, des actions qui sont au quotidien très importantes, de conscientisation permanente. J'ai en mémoire des luttes en Inde contre Coca-Cola qui étaient tellement belles, des jours et des jours devant des usines. Mais eux, ça prend des proportions dans des durées complètement disproportionnées par rapport à ce que nous menons. Mais ça veut dire que partout, ça bouge, ces groupes sont montrés du doigt et nous devons fortifier ça, le populariser, dire voilà ce qu'ils font, ce qu'ils sont et ce que nous ne voulons pas.
Pierre Vuarin.
Oui, mais il faut quand même se rendre compte que le phénomène d'accaparement et le phénomène d'accaparement des terres agricoles et celui de spoliation des ressources naturelles, c'est un phénomène très rapide qui se développe sur pratiquement tous les continents. Et je veux dire qui a un caractère, comme disait Mathieu cet après-midi, je crois, irréversible. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est sur une situation de recul. C'est-à-dire, ça va tellement vite que le mouvement social est quand même sur une situation de recul. Alors, il y a des éléments de résistance, des éléments de lutte, mais dans beaucoup, beaucoup d'endroits, ça avance tout seul, sans mobilisation. Il faut le dire. Enfin, je crois que, justement, l'important, c'est de faire prendre conscience, donner cette information au niveau national et international, ce que l'on tente de faire avec aussi ces journées et avec bien d'autres mobilisations, renforcer effectivement les endroits où on peut y avoir des luttes. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays où il y a vraiment aussi des luttes fortes. On a noté le Mali, mais il y a aussi d'autres pays où il y a quand même une situation d'acceptation, malheureusement. Donc je pense qu'il faut avoir conscience de ça et après s'appuyer sur tous les points de force pour avancer, pour développer des choses. Le caractère, l'aspect juridique est un point très important, le renforcement au niveau national, les capacités juridiques et aussi au niveau international, contre les multinationales. Le travail de Sherpa, qui est une ONG qui fait un travail de cette nature, me paraît particulièrement pertinent.
Je voulais juste noter avant à nouveau de faire une pause musicale par rapport à ce que dit Pierre. Plusieurs intervenants ont fait remarquer aussi, puisque les personnes m'ont dit mais pourquoi les gens ne se défendent pas, pourquoi ils ne désobéissent pas, etc., que la situation n'est quand même pas la même qu'en France. Enfin, quoi qu'en France, on va dire que ça régresse, mais que c'est très violent, quoi. Il y a des gens qui se font assassiner. Il y a un chanteur guatémaltèque qui s'est fait assassiner, c'est ça. J'ai entendu plusieurs fois parler de ça dans ces rencontres, qui s'est fait assassiner la semaine dernière ou il y a deux semaines. Il y a des assassinats, il y a des chantages sur les familles, il y a des gens qui meurent bizarrement. On indemnise les familles pour qu'elles se taisent. Enfin, On n'est quand même pas dans le même contexte où on peut militer facilement. Et ça, c'est important aussi que les gens s'en rendent compte.
Oui, et il y a aussi l'existence de d'argent, de bulles financières, acheter les gens. Tout d'un coup, on leur propose d'acheter leur terre trois fois, quatre fois le prix qu'ils pensaient valoir. Et donc, les gens sont tentés, effectivement, de pouvoir les vendre à un certain moment. Mais après, ils n'auront plus rien.
On avait passé l'année à tenter de s'opposer au rouleau compresseur. Car la mondialisation, ben c'est la disparition des petits cultivateurs. On avait passé l'été à faire libérer José en tapant la mesure sur des bidons de mazout, sur des glissières d'autoroute, les grilles des préfectures. Des préfectures. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Il y avait du monde plein les routes, on ne s'en venait pas. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Tous ces gens qui se rajoutent, un jour ça suffira. Pour les gens de l'OMC, nous on n'est que du gibier, de la chair à business. Ils veulent tout privatiser, tout breveter, tout faire rentrer au fond de leur tiroir caisse. Mais nous là au milieu, on chante, on crie comme on peut, on cause, on s'organise. On va pas les laisser faire, on leur fera dire que la terre c'est pas leur marchandise. Leur marchandise. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Il y avait du monde plein les routes, on ne s'en revenait pas. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Tous ces gens qui se rajoutent, un jour ça suffira. Un autre monde c'est possible. 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 Il y a 30 ans déjà, les paysans de ce coin-là voulaient sauver leur terre. Personne n'aurait pu parier qu'un jour ils allaient gagner contre des militaires. Moi j'ai ramené du Larzac, du soleil plein mon sac, des idées plein ma tête. Moi j'ai ramené de l'espoir, l'envie d'aller en bagarre, aussi de faire la fête. De faire la fête. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Il y avait du monde plein les routes, on ne s'en venait pas. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Tous ces gens qui se rajoutent, un jour ça suffira.
Gardarem, de la terre à la mer.
Et l'argent dans tout ça ? Donc on n'a pas parlé, parce que tout ça, au fond, si on réfléchit bien et si on regarde bien, eh bien on voit derrière des mots comme profit et des slogans du genre eh bien, leur argent vaut mieux que toutes nos vies. Alors la spéculation financière, ça existe, Pierre Vuarin ?
Ben oui, ça existe et ça existe de plus en plus sur l'alimentation. Et ça, on peut penser, on peut avoir un point de vue moral en disant c'est pas acceptable. Puis aussi un point de vue politique en disant, mais la spéculation qui est en train de se réaliser sur les marchés internationaux à l'heure actuelle pour à la baisse des prix ou à la hausse à certains moments, je veux dire, c'est une spéculation qui a un risque majeur pour les économies en général, pour la sécurité alimentaire des peuples, je veux dire, est destructeur des systèmes alimentaires. Et ça, c'est une catastrophe. Et je crois que là-dessus, il y a une certaine prise de conscience. Il y a eu quand même une information. On s'est rendu compte que qu'est-ce qui se passait au niveau international. Tout d'un coup, les prix augmentaient terriblement. Mais pourquoi ils augmentaient? Alors, quand même, on a dit, ben oui, c'est parce qu'il y a des gens qui spéculent. Il ne faut uniquement spéculer. Ce n'est pas acheter des céréales pour les vendre réellement. C'est simplement jouer à la bourse, là, sur la hausse des prix.
Alors, vous souhaitiez, pendant ces rencontres, peut-être avec Paul Jorion, qui n'a pas pu venir, mais que vous avez pu, dont vous avez pu consulter une vidéo, faire des propositions concrètes par rapport à, pour changer ce système spéculatif.
Alors, on avançait dans une direction qui est porté aussi par différents mouvements. Il y a des différentes ONG qui ont dit non, ça, on ne peut pas continuer avec ce système de spéculation, mais comment l'arrêter? C'est difficile, on a l'impression que c'est bon, c'est dans la nature des choses, tout le monde a tout le temps spéculé, donc pourquoi pas continuer? Non, je pense justement, Paul Jorion dit non, historiquement en France, jusqu'à 1885, c'était interdit de spéculer sur la hausse et sur la baisse des prix, on n'avait pas le droit de jouer sur cette hausse, la baisse des prix, en particulier au niveau alimentaire. Donc nous, on propose, on va travailler cette proposition plus finement, sur le fait d'interdire dans les marchés à terme, c'est vendre un peu des produits agricoles avant qu'ils soient même produits, ça peut être une bonne chose de vendre des produits parce que ça... d'avoir cette vente parce que ça peut garantir un certain type de prix et savoir à quel prix vont être vendus certains produits. Mais en tout cas, sur ces marchés à terme, d'interdire ces marchés à terme et de jeu sur les marchés à terme à ceux qui ne sont pas des négociants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des acteurs réels qui vont véritablement acheter ou vendre ces produits alimentaires. Et ça, je crois que c'est une ligne très intéressante à suivre. On va la porter... je veux dire, au niveau international, en particulier autour de Rio, mais avant, je crois qu'il y a un rendez-vous à la fin de l'année sur ces questions encore concernant la régulation des marchés. Je crois que c'est une bataille qui est vraiment à mener et qui peut être menée aussi au niveau des pays. C'est-à-dire, un pays peut déclarer que d'un coup, bon, il n'accepte plus ce jeu-là. Ça, c'est à travailler, mais en tout cas, c'est une voie qui peut être... très intéressante et portée par beaucoup de mouvements à l'heure actuelle au niveau international.
Alors, je vais être un petit peu provocateur, mais est-ce qu'on ne joue pas les bisounours là? Est-ce que, au fond, ces tentatives de moraliser un petit peu le capitalisme, sans le remettre vraiment en cause, est-ce que ce n'est pas un combat un peu naïf? Et qui va pas peut-être apporter les solutions que l'on attend, et puis à la hauteur des défis de la planète d'aujourd'hui.
Oui, mais moi je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un risque, un tel risque de déstructurer des sociétés entières que, bon, il y a des gens qui écoutent, même M. Guéant à l'Élysée, écoutent ces propositions quand ils ont eu à négocier dans le cadre du G20, ces propositions ont été discutées. Donc il faut faire attention, parce que même le capitalisme, d'une certaine façon, il a besoin d'un certain type de stabilité. Et là, on rentre dans une grande instabilité.
Parmi les rendez-vous ou les perspectives concrètes qui sortent de ces rencontres, j'ai entendu beaucoup parler de Rio plus 20. Est-ce que vous pouviez en dire quelques mots?
Je dirais, moi, simplement, Pierre Verin, c'est que ça va être l'occasion... justement, en prolongement de
Rio plus 20.
Oui, en prolongement de ces rencontres de Nantes, justement d'essayer d'aller aussi ensemble, pêcheurs, paysans, populations de montagne en particulier, peuples indigènes, je dirais de faire converger un certain nombre d'actions et de propositions à Rio plus 20. Rien que de faire ça, c'est un élément très intéressant et important.
Mais qu'est-ce que Rio plus 20 ? Peut-être l'expliquer aux auditeurs.
Pour nous, ce sera un gros rassemblement, effectivement. Ce sera l'heure des bilans, sommet de la Terre à Rio en 1992. Aujourd'hui, donc, ce sera en juin 2012. Donc, à cette date-là, ce sera le moment de faire le point sur les évolutions qu'il y a pu y avoir. Et pour nous, ce sera un bilan catastrophique de dire qu'il n'y a aucune des missions qui était donnée à Rio qui n'a été accomplie. On a accentué les problèmes de la faim, accentué les problèmes sociaux, accentué les problèmes environnementaux. Et ce sera pour nous une occasion militante forte. Le MST est déjà sur son pied de guerre là-bas pour mener les batailles et faire partie du collectif, le comité de pilotage pour travailler sur le rassemblement. Ce sera beaucoup en lien avec ce qui s'est discuté à Cochabamba lors de la conférence sur le changement climatique, où nous avons parlé des droits de la terre-mère, nous avons parlé d'un tribunal international environnemental et climatique. Et donc, il y a toute une poursuite dans ce sens-là qui sera avec un agenda militant plus propre que quand on est à Cancun ou quand on est à Durban à la fin de l'année pour le changement climatique. Ça va donner la possibilité d'expression, de construction d'alliances, de dynamique, de résistance pour d'autres mondes, sur d'autres bases, et notamment une autre vision de notre rapport à la Terre, non plus basée sur la domination, mais sur un compromis entre le respect et l'utilisation.
José Riffaut, merci. On le prendra comme votre conclusion, parce que l'heure est déjà, s'achève déjà. Et puis, je pense que c'est une belle conclusion. Jean Bourliaud, alors, votre conclusion, oui. À vous.
Alors, Rio plus 20, comme son nom l'indique, c'est Rio plus 20 ans. Et à Rio, en 1992, nous n'y étions pas en tant qu'association des montagnes. Par contre, il y a eu un chapitre spécifique pour la montagne. Et il était rédigé spécifiquement en termes environnementaux, c'est-à-dire protéger et conserver des écosystèmes fragiles. Alors, le terme population prend tout son rôle, c'est celui que nous avons voulu lui donner, c'est-à-dire que, justement, les écosystèmes, ce sont les populations qui les gèrent pour le bien-être des territoires dans tous les sens. Et donc, le Rio plus 20 va nous donner l'occasion d'apporter tout ce que nous venons d'exposer ici sous une forme totalement différente, c'est-à-dire avec la parole, la voix des territoires, dans le sens où nous venons d'en parler. Et je crois que le grand succès de ces alliances, de l'Alliance, c'est de pouvoir l'apporter avec les autres partenaires de la mer et de la terre. Donc, cette alliance, effectivement, qui n'est pas seulement une alliance de principe, mais une alliance réelle, garde-rem, la terre et la mer.
Mathieu Perdriau, votre conclusion à vous ?
Toujours dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, là, sur Rio plus 20, c'est qu'il faut ne manquer aucune occasion de faire apparaître que, comme la question du changement climatique permet de le faire, les ressources naturelles ont une dimension de propriété commune, c'est-à-dire que leur utilisation en tout lieu engage l'avenir commun. Et que pour cette raison-là, les ressources naturelles, la mer, la terre, méritent qu'on invente, qu'on développe des modalités d'organisation des droits sur ces ressources et des usages qui respectent l'avenir et l'équité à l'heure actuelle, à l'instant donné.
Bien, et puis le dernier mot pour Pierre Vuarin. Alors, content de ces rencontres et les prochaines, nous, on est déjà impatients.
Pour l'Alliance, nous aurons certainement une rencontre. On ne l'a pas précisé exactement, mais je pense dans une année. Mais je voudrais dire qu'il y a un rendez-vous de la Via Campesina au mois de novembre sur ce thème des accaparements agricoles au niveau international, qui sera important pour l'Afrique, mais aussi pour le niveau international.
Donc, merci à toutes et merci à tous. Merci à nos invités. C'était donc la 7e émission. Demain, nous serons encore sur le Larzac, dans l'Aveyron, pour vous rendre compte un petit peu de la marche dont va vous parler Catherine. Alors, Catherine, je te donne le micro.
Oui, dimanche 17 juillet, vous pourrez participer à une marche. J'invite tous les gens qui sont proches du Larzac à nous rejoindre, à rejoindre les participants de ces rencontres et des habitants du Larzac et tout autour, du secteur tout autour, pour répondre à l'appel. Donc, nos terres, nos territoires, nos vies ne sont pas à vendre. Un rendez-vous est donné à 10h à la bergerie de la Blaquière pour s'engager autour de ce texte, puis faire une marche et monter un cairn symbolique. De la même façon que les 103 paysans sur le Larzac avaient signé un engagement de ne pas vendre leurs terres en 1971, donc avec un pique-nique à 13h entre tous les participants de cette marche.
Un grand merci à Nico, à la technique.